Bonjour Dominique Lagro-Sempère.
Bonjour Léa, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes grande reporter à TF1 effectivement et vous êtes là ce matin pour un témoignage intime, lucide, touchant. Après l'orage chez Flammarion, vous racontez la maladie et la mort de votre mari qui vous a laissé fracasser. Et puis la vie d'après, le deuil et la reconstruction. Votre mari était un très grand reporter de France 2 qui a sillonné le monde, qui a couvert les conflits et les guerres. Il s'agit de Claude Sempère que les téléspectateurs connaissent bien, qui était très respecté, qui avait gagné le prix Albert Londres notamment. Il est mort il y a 2 ans après un cancer violent, mais à l'origine, ce livre-là, vous ne vouliez absolument pas le publier. C'est un texte que vous avez écrit pour vos enfants quelques mois juste après sa mort, et c'est eux qui vous ont convaincu de le publier.
C'est exactement ça. Vous savez, quand vous traversez cet orage, c'est la première fois que j'assiste comme ça à la mort d'un si proche, soit on sombre, j'ai sombré, soit on remonte. Et on remonte, c'est peut-être très galvaudé aujourd'hui de parler de ça, mais c'est on remonte grâce à l'amour. Et l'amour, quand votre homme n'est plus là, ben c'est l'amour de vos enfants. Et on est d'abord une mère, évidemment, mais eux sont sacrément présents pour une mère. Et moi, c'était une lettre d'amour pour mes enfants, pour leur dire tout ce qu'ils n'ont pas vu. Moi, j'ai tout dit à mes enfants. J'ai raconté les traitements, j'ai raconté la souffrance, j'ai pleuré, Claude a beaucoup pleuré. On a tout dit. Parce qu'au départ, on veut les protéger, évidemment. Bon, c'est comme ça qu'une mère réagit ou qu'un père réagit. Ensuite, moi, j'ai décidé de tout partager avec eux, parce que je savais que Claude allait partir. Et donc, ça a été une lettre d'amour pour eux, de leur dire, voilà, votre papa est parti comme ça. Et aujourd'hui, vous allez écouter cette intimité-là qu'on a eue pour ces derniers jours.
La vie de Claude a toujours été marquée par la maladie, lymphome de Hodgkin à 20 ans, puis un autre cancer 5 ans après, et puis plus rien, vous le rencontrez, vous avez 24 ans, il en a 34, vous êtes amoureux, vous vous mariez, vous avez 2 enfants, la vie quoi? Jusqu'en 2017, quand la maladie le rattrape à nouveau. D'abord, vous la refusez cette maladie. Ton cancer allait bien finir par se soigner, on la foudroie bien cette saloperie, vous y croyez. Vous écrivez aussi, on est devenu un couple à 3, toi, la maladie et moi, je l'ai détesté, je t'ai détesté, je me suis détesté.
Bien sûr, parce que ça.
Au début, c'est un rejet.
Ben, ça ne va pas dans le sens de la vie. Moi, j'ai envie de bouffer cette vie et à 45 ans à l'époque, je me dis mais c'est pas possible. On va pas tout foutre en l'air à cause de ce cancer. T'en as déjà fracassé 2 cancers.
Tu vas fracasser
celui-là. Et en plus, t'as 2 enfants, donc tu vas te bouger là. Et il s'est bougé, mais. Elle a été sacrément plus forte, cette maladie.
Vous racontez aussi, et c'est intéressant, votre relation au médecin et notamment à l'oncologue de Claude, qu'il appelle mon capitaine. Cet oncologue aussi, vous la détestez, vous lui en voulez comme si c'était sa faute à elle, comme si c'était elle qui lui avait inoculé le virus, vous l'écrivez. Vous racontez cela et en même temps, dans ce livre, vous la remerciez.
Ben oui, j'ai dit des choses terribles. Je lui ai dit des choses terribles à travers Claude. Je lui ai dit que je la détestais, que pourquoi aujourd'hui elle n'arrivait pas à trouver un remède pour le guérir, alors que quand on n'était pas là et que les enfants n'étaient pas encore... Vivant, t'en étais sortie. Donc oui, j'ai tout déversé sur elle. Elle a eu l'intelligence de vie de savoir que parce que cette colère était là, j'étais vivante et que j'allais m'en sortir. Donc elle m'a laissé tout déverser. Puis un jour, un soir au téléphone, après la mort de Claude, je lui ai dit « Bon, je crois que je dois m'excuser un petit peu. » Elle me dit « Non. » Elle me dit « Moi, je suis tellement heureuse parce que pendant tout ce combat, vous êtes restée en vie. »
Vous racontez une lettre, parce qu'il écrivait des lettres, Claude Sempère, pendant sa maladie. Il y a une lettre, notamment, où il écrit, en gros, en gras, en majuscule, « Ne dites pas bon courage ». Pourquoi ça l'énervait quand on lui disait « bon courage » ?
Parce qu'il en avait plein. Parce que évidemment qu'on a du courage, parce qu'évidemment on n'a pas envie de mourir. Donc quelqu'un qui dit bon courage, vous savez, c'est comme quand on est veuve et que le matin on ne sait pas trop comment vous parler. Alors c'est bonjour, donc vous faites un sourire. C'est bah dis donc, elle va bien hein, pour une veuve. Ou quand vous pleurez, c'est ah ben voilà, elle pleure, on ne sait pas quoi lui dire. Donc oui, ne dites pas bon courage parce que dites juste ce que vous avez dans les tripes, quoi. Dites ce que vous avez envie de dire. Il n'y a pas de convenance à avoir. Bon courage, c'est l'énerver. Bah, bon courage, enfin. Ouais. Il en a eu plus que tout le monde, ce courage.
Vous racontez aussi la difficulté du vaillant, de celui qui accompagne le malade, qui se sent coupable, qui se sent inutile. Vous dites l'empathie, c'est souffrir avec, ce n'est pas sombrer avec. Et pourtant, vous avez sombré.
Bah, bien sûr, moi, quand j'ai appris que Claude avait un cancer, je voulais lui prendre ce cancer, parce qu'il en avait déjà eu 2. Je me suis dit, moi, j'en ai pas eu, donc je vais le prendre. Et évidemment qu'on veut... On veut mourir avec parce qu'on se dit que c'est pas normal de survivre. Et puis, immédiatement, vous avez cet instinct de survie, cette étincelle qui fait « mais je ne peux pas, mes enfants sont là, c'est pas la double peine pour mes enfants. » Et puis merde, je suis vivante, moi.
Dans une autre lettre déchirante, écrite 2 ans avant sa mort et que vous partagez à la fin du livre, je trouve ça très important, vous dites aussi, Claude Samper dit, il écrit sa peur de la mort, je vais citer, et l'injustice qu'on ressent quand on est malade, « j'ai peur ». Terriblement peur, je sens mes forces diminuer, je ne sais pas si je pourrais aller au marché tout à l'heure et préparer le repas. La maison dort et moi j'ai peur, je ne veux pas mourir, je ne veux pas partir. Pourquoi ça devrait s'arrêter? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça?
Quand j'ai découvert cette lettre sur son petit bazar de bureau, là, je me suis dit que j'avais parlé pour lui pendant tout ce livre et que c'était ces mots qui devaient clore ce livre parce que, effectivement, c'est tellement beau d'avoir peur de mourir. Parce que Claude était un amoureux de la vie, un amoureux des autres. Et le fait qu'il dise qu'il a peur de mourir, je trouve ça tellement humain.
Après la mort de Claude, vous racontez la difficulté d'accepter. Il faut laisser les morts à leur monde, écrivez-vous. Accepter de ne plus les revoir, de ne plus les toucher, de ne plus entendre leur voix. Accepter aussi que les contours de leur visage et de leur corps se dissipent, c'est sans doute cela le plus difficile. C'est d'oublier le visage, c'est d'oublier la peau et l'odeur, c'est ça, non?
D'avoir peur que l'autre s'évanouisse. Ma fille, un jour, est arrivée, et je ne trahis pas un secret puisqu'elle m'a dit que je pouvais en parler. Elle m'a dit « Tu sais maman, j'ai peur d'oublier papa. » Et j'ai trouvé ça tellement beau. Parce que ma petite nana de 16 ans aujourd'hui, finalement, a compris ce que voulait dire être vivant. Être vivant, c'était continuer le chemin. Même si l'autre n'était plus là, même si l'autre n'était plus là pour faire des câlins, pour faire un café le matin, pour faire un bisou. Je peux vous dire que là, Claude, il est super fier que je parle de lui et qu'on parle de lui aujourd'hui. Donc il est là, même si son corps n'est plus là.
Et il est fier aussi que vous vous êtes autorisé à aimer à nouveau. C'est ce que vous racontez aussi à la fin du livre. Vos enfants vous ont autorisé, dites-vous, à aimer à nouveau.
Oui, exactement. C'est le sujet sur lequel j'avais peut-être un peu plus de pudeur à parler parce que, effectivement, le regard de la société est tellement fort, tellement...
Culpabilisateur.
Culpabilisant aussi, exactement. Ouais. Parce que
vous dites
que
certains de vos amis vous ont regardé...
Déjà, parce que tout comme on choisit pas de mourir, ben on choisit pas d'aimer. Et heureusement que j'ai aimé et que j'aime passionnément aujourd'hui.
Voilà, vous avez pu compter aussi sur l'aide de Jean-Pierre Pernaut, avec qui vous avez longtemps travaillé au Trésor de TF1 et qui signe la préface de votre livre. Vous dites qu'il avait ce sourire qui vous donnait de la force, qui vous donnait la pêche. Lui aussi savait ce que c'était qu'un cancer.
Ah, il savait, ouais. Il savait, et ça a été un bon livre de chevet chaque jour.
Ouais. Il vous a aidé et vous l'en remerciez. Voilà, après l'orage, Dominique Lagroux-Samper, un témoignage qui pourra peut-être aider les autres. Merci beaucoup d'avoir été là et belle journée à vous.
Merci à vous.